Cours avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et c'est l'édition de Sans détour du 27 septembre 21. Aujourd'hui, on va parler travail-emploi avec M. Carl Blackburn, qui est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Et après ça, ça va être des sports. On va d'abord parler de sport de masse, de récréation. On va parler au Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, et de leur nouveau logiciel, leur nouvelle application qui permet de trouver le sport à notre goût. Et après, on va parler de sport élite. On va parler de Paralympique, un retour sur Tokyo Paralympique 2020 et l'avenir des Jeux Paralympiques et de leur impact sur la société avec notre collègue et ami, M. Kevin Breton. Et enfin, on terminera avec le Tour du monde avec Christiane Campagna. Tout ça à Sans détour. La situation économique du Québec se résume en ce moment à une crise de l'emploi. Non pas qu'il y ait du chômage, c'est plutôt le contraire. Il manque de main-d'œuvre. Partout, on voit des affiches « Nous embauchons ». Les entreprises se plaignent de ne pas trouver tout le personnel dont ils auraient besoin. Et pendant ce temps-là, il y a un bassin de la population qui ne demande qu'à être employé. Et c'est celle, évidemment, des personnes qui vivent en situation de handicap. Pour faire le pont entre un besoin évident de la société et une aspiration légitime au travail, on s'entretient aujourd'hui avec M. Carl Blackburn. Bonjour M. Blackburn, ça va bien?
Bonjour M. Beauregard, ça va très bien, merci.
Ça va très bien. Vous êtes président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec et le Conseil du patronat a mis tout récemment sur pied un programme qui s'appelle Duo Emploi. Peut-être nous en donner les grandes lignes.
Mais d'abord, le programme Duo Emploi, c'est vraiment un partenariat que nous avons établi avec le ROSEF, qui est l'organisation qui, bien sûr, travaille en étroite collaboration avec les gens en situation de handicap.
D'accord.
Et le gouvernement du Québec, via le ministère de Jean Boulet, le ministre du Travail, qui voulait effectivement qu'on puisse collectivement trouver une façon de rejoindre les gens, d'une part, qui sont en situation de handicap, et d'autre part, de faire en sorte que les entreprises qui ont des besoins, qui nécessairement en premier ne pense pas nécessairement à employer des gens qui sont en situation de handicap, puissent le faire pour que de part et d'autre, on soit capable de faire tomber des barrières, faire tomber des perceptions ou des biais inconscients, et bien évidemment, rallier le plus de monde possible à ce défi de société auquel nous sommes confrontés, qui est celui de la pénurie de main-d'œuvre. Et si je peux me permettre, M. Beauregard, pour le bénéfice de vos auditeurs, la situation dans laquelle on se retrouve actuellement n'est pas liée à la COVID-19, n'est pas liée à la pandémie dans laquelle mondialement nous sommes
prêts. Oui, parce que c'est souvent là qu'on pointe pour expliquer cette situation-là.
Exactement. La situation dans laquelle on se retrouve est davantage liée à notre courbe démographique qui est vieillissante. Et c'est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs années, là, les gens au ministère de l'Emploi, au niveau des statistiques, le savaient. D'ailleurs, en 2017, le ministère de l'Emploi avait fait une évaluation statistique des départs à la retraite des travailleurs dans les prochaines années. Et le constat est alarmant et quand même très important. C'est que d'ici 2026, c'est 1 400 000 travailleurs qui prendront le chemin de la retraite.
Des baby-boomers vieillis. Ben les baby-boomers, ce sont les gens qui sont nés jusqu'à à peu près 1960. Ben voilà, les baby-boomers commencent à avoir 60, 61, exact. 62 ans. Les plus jeunes parmi cette cohorte, ces gens-là se retirent de façon tout à fait légitime. Mais la natalité a chuté dans les années 60. Puis ben aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal moins de monde qui ont entre 20 et 60 ans.
Vous avez raison de le mentionner. Puis probablement que la situation va continuer de se détériorer ou à tout le moins d'être difficile encore pour les probablement les 10, 12, 15 prochaines années.
Alors on va avoir besoin, excusez-moi, de pour revenir à Duo Emploi, oui. puis oui. De la création de ce programme-là en conjonction avec la RECEF puis le ministère du Travail. C'est justement, on a un pool au Québec de main-d'œuvre qui pourrait prendre la relève. Et elle est difficile, par exemple, à intégrer. Et oui. c'est à ça que Duo Emploi va s'atteler.
Exact. L'objectif de Duo Emploi, d'abord, c'est de mettre de faire des maillages entre mm-hmm. des entreprises. Elles sont plus de 200 jusqu'à maintenant qui se sont inscrites.
Pour cette bravo. Journée,
et des travailleurs en situation d'handicap qui vont pouvoir vivre cette journée de formation ou de stage, comme on l'appelle communément, mm-hmm. et éventuellement qui pourraient découler sur un emploi ou une formation ou peu importe la forme de travail qui pourrait être associée à cela. Donc, c'est vraiment un objectif qui est important de réaliser. Alors, les entreprises sont au rendez-vous. La semaine dernière, avec le webinaire que nous avons tenu avec les gens du Rosef mm-hmm. et différentes entreprises qui nous ont fait part de belles expériences qu'ils avaient mises sur pied pour les personnes en situation de handicap. Alors, on a maintenant plus d'une cinquantaine de personnes mm-hmm. qui se sont manifestées pour participer à ces stages.
Excellent.
Et nous avons, avec le Rosef, prolongé la possibilité d'appliquer pour un stage qui va se dérouler dans une journée en novembre. Là, mm-hmm. les journées d'application sont prolongées jusqu'au 10 octobre. Donc, les gens qui nous écoutent, qui voudraient participer à un stage,
c'est encore possible.
C'est encore possible de le faire. Et vous avez jusqu'au 10 octobre pour vous inscrire.
Et pour s'inscrire, où est-ce qu'on va? On va sur le site.
Vous pouvez aller sur le site du Rosef. Vous avez l'adresse exacte. Là, c'est Duo Emploi mm-hmm. en commercial, rosef.ca mm-hmm. ou sur le site Internet directement du Rosef, qui est le rosef.ca. Donc, vous avez les façons de fonctionner. Vous avez les formulaires à remplir. Vous avez le chemin à suivre pour vous permettre, d'une part, soit d'être maillé avec une entreprise mm-hmm. et d'autre part, de mailler des entreprises avec des gens qui sont en situation d'handicap. Et ça, dans toutes les régions du Québec.
Excellent. Et Rosef, on le rappelle, c'est Rosef comme Joseph. Alors, ça finit par un PH. Hein?
Exactement.
Ça finit pas par un F. De quel type d'emploi est-ce qu'on parle en général? Parce que souvent, les emplois adaptés pour les personnes en situation d'handicap, c'est souvent plutôt de la manutention, parfois du recyclage, de l'assemblage. Mais est-ce que c'est des emplois de ce type-là dont il est question ou... Est-ce qu'il y a eu d'autres types d'employeurs qui ont manifesté un intérêt?
Bien, je vous avouerai qu'il y en a pour tous les goûts. Mm-hmm. Bien évidemment, il peut y avoir du travail à la chaîne, il peut y avoir un certain type de travail sur des chaînes de production, mais il y en a aussi pour des communications. Je pense entre autres à Marc-André la semaine passée qui était avec nous, qui a été la personne responsable des communications chez Savoura pendant quelques années. Mm-hmm. Donc, il y en a pour tous les goûts en finance, en différents éléments concernant, par exemple, de la recherche, des jeux vidéo, de la technologie. Alors, ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des capacités ou qui voudraient participer à cette journée de formation ou de stage, ben, je les invite à participer. Parce qu'on le sait bien, on ne sait pas où tout ça peut nous mener.
Exactement.
Mais il est clair que si on ne le sait pas, on ne le saura pas.
Voilà.
Et dans ce sens-là, ben, osons.
Exact. Puis, donc, il s'agit d'une journée où la personne est intégrée à l'entreprise, parce que d'une part, ça permet de savoir en quoi consiste l'emploi, puis ça permet aussi à l'entreprise de comprendre quelles sont les façons de s'y prendre pour intégrer quelqu'un. Est-ce que les gens, les entreprises qui se sont inscrites, ce sont des entreprises qui sont déjà intégrantes? Est-ce que ce sont des entreprises où il y a déjà des personnes en situation d'handicap ou il y a des employeurs qui sont en train de faire le saut eux aussi?
Ben, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a probablement un mariage ou un mix des deux. Mm-hmm. Parce que effectivement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre tel qu'on le vit actuellement, bien évidemment, l'objectif des entreprises, des employeurs, c'est d'élargir leur bassin potentiel de main-d'œuvre. Et dans la catégorie des gens en situation de handicap ou des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail, mm-hmm. ben ça peut permettre justement de rencontrer des objectifs que poursuivent des employeurs en termes de besoins. Alors, dans ce sens-là, il y a un mix des deux. Il y en a qui sont déjà participantes à ce programme. Il y en a qui sont déjà des entreprises qui intègrent de façon concrète des travailleurs en situation de handicap et d'autres qui, peut-être pour la première fois, auront l'occasion de participer, je dirais, à cette journée de mariage. Mais en même temps, comme je le dis depuis le début, Si on ne sait pas, nous ne le saurons pas.
On ne le saura jamais.
Je vous invite à oser, effectivement.
Parce que souvent, il y a des efforts de la part du gouvernement ou de participants à la société, comme le Conseil du patronat du Québec ou d'autres organismes dans le milieu communautaire, entre autres, pour ce qui est de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Quel est le meilleur emploi pour le dollar? Est-ce que c'est préférable de soutenir un salaire? Est-ce que c'est d'éduquer les employeurs? Est-ce que c'est de créer des journées comme celle de Duo Emploi? Quel est le meilleur levier financier qu'on peut utiliser? À quel endroit est-ce qu'on doit mettre le prochain dollar consacré à l'intégration?
Bien, c'est celui qui va nous permettre d'embaucher une personne en situation de handicap à 20 ans et qui va rencontrer les exigences ou qui va rencontrer les objectifs des employeurs. Alors, c'est de cette façon que je pense qu'il faut le voir. Mm-hmm. Et je le mentionnais tout à l'heure, il y a toutes sortes des biais, là, souvent, pour différentes raisons que les gens ne connaissent pas ou que les entreprises ne savent pas nécessairement à quelle porte aller frapper. Bien, des organisations comme le ROSEF, des partenariats que le CPQ a développé avec le ROSEF en collaboration aussi avec le gouvernement du Québec, ben ça peut permettre justement de créer un guichet unique qui va permettre à des gens d'y avoir accès, de mieux comprendre comment les programmes fonctionnent, mais également pour les entreprises,
exact.
De mieux connaître également quelles sortes de programmes leur sont offerts et comment ils peuvent rejoindre ces employés qui, généralement, sont un peu plus éloignés du marché du travail. Alors, on pense, nous, que de cette façon-là, si on était capable d'augmenter le taux, d'activité des personnes dans la catégorie des 15 à 64 ans, ben ça peut toucher un bassin fort important de plus de 200 000 personnes, potentiellement, qui pourraient rejoindre les rangs du marché du travail.
Je me souviens d'avoir vu une étude faite par l'Institut CDHOW il y a quelques années qui démontrait l'apport énorme que d'avoir un taux d'employabilité égal au reste de la population si les personnes en situation de handicap participaient à la vie économique activement par l'emploi, ça aurait des retombées de milliards de dollars sur l'économie canadienne, sur l'économie québécoise. Et dans ce créneau-là, souvent les employeurs qui ne sont pas familiers avec l'intégration de personnes vivant en situation de handicap, il y a toutes sortes de préjugés. Et pourtant, ceux qui ont fait le saut et qui intègrent dans leur milieu une main-d'œuvre qui vit en situation de handicap ne font que se féliciter de la loyauté, de la fidélité, de l'application et je dirais aussi du rayonnement que ça crée chez les autres employés de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des façons pour vous de faire connaître aux employeurs qui sont peut-être encore réticents ou qui ne savent tout simplement pas des témoignages de leurs compétiteurs de l'autre côté de la rue qui peuvent leur dire « oui, ça marche ».
Ben d'abord, c'est la création d'un guichet unique là, qui permettrait d'allecter la diversité et l'inclusion, de permettre à ces gens-là qui sont un peu plus éloignés du marché du travail de joindre les rangs. De notre côté, concrètement, ce que nous faisons au Conseil du patronat du Québec, c'est qu'on prend des engagements, on fait des partenariats avec des organismes qui promeuvent justement la diversité, l'inclusion et l'équité pour que les gens puissent joindre le marché du travail. Et c'est la même chose pour les entreprises également. Alors, si on prend par exemple l'exemple de la semaine dernière où, par exemple, Plaisir gastronomique que tout le monde connaît certainement suite aux différentes campagnes publicitaires, et je dirais très novatrices qu'ils ont fait dans les dernières années, ben, Plaisir gastronomique a fait le pari de la diversité et emploie déjà plusieurs personnes
exact,
qui sont
tout à fait.
En handicap.
Ben,
alors, des exemples comme ceux-là
y en a
peuvent
plusieurs.
Inspirer d'autres entreprises à faire le virage de la diversité. Et de notre côté, on en est convaincu au Conseil du patronat du Québec que c'est une option à poursuivre.
Tout à
c'est
fait.
Une option à développer. Et si on augmentait le taux d'activité de ces personnes entre 15 et 64 ans, c'est potentiellement plus de 238 000 personnes qui pourraient être rejointes comme ça
exact.
Et rejoindre les rangs du marché du travail.
Ben, merci beaucoup, M. Blackburn, du Conseil du patronat du Québec. On parlait de Duo Emploi. Il n'est pas trop tard pour vous y inscrire. Alors, allez-y. Allons vers une employabilité inclusive pour tout le monde. Merci, M. Blackburn.
C'est un plaisir, M. Beauregard. Bonne journée.
Ça arrive à manufacture, les deux yeux fermés ben durs. Les culottes pas zippées, cloque. Ouais, ouais, grouille-toi, donne-y des pêches. Les deux pieds dans mes bottines, les mains pleines de pouces, les mains des poches. Ça joue avec son petit change, toujours à côté quelque part. Ça parle, ça fume, ça mange la gomme, ça lâche pas, yagri, yagri, yag. C'est que gagné hier au soir, je ne sais pas, j'ai mal pop. Fais le tour du forum avec, puis va s'écraser sa bande. Hanover, pique-nique dans le troisième. Ça zigonne, ça fuck le chien, maudit pas de molle.
C'était « Mon pays » de Robert Charlebois. Les paroles sont de Régent Ducharme. Alors, c'est sûr que ça date un peu des années 60. Il est question de Bobby Rousseau au Forum. Alors, ceux qui savent qui est Bobby Rousseau, on a tous déclaré notre âge. Alors, voilà, on parlait de duo emploi, mais il faut avoir aussi le sens de l'humour. Et c'est pour ça que cette chanson-là me semblait être un petit clin d'œil. Le Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, présente un programme « Trouve ton sport ». C'est une application qui s'appelle Charlie, qui va vous permettre de connaître les activités qui seraient adaptées à votre situation d'handicap. Et pour en parler, on a avec nous Mme Carole Froment, qui est coordonnatrice des communications. Bonjour Mme Froment.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Ça va très bien, merci. Le CIVA existe déjà depuis presque 60 ans pour remédier au manque de le service procuré aux personnes en situation de handicap physique. C'est un peu comme un lieu de rencontre et vous consacrez beaucoup aux loisirs et au sport.
Exactement. Le CIVA existe même depuis plus de 60 ans. On a fait notre 60e anniversaire en janvier passé.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, on offre des services de loisirs sportifs, culturels, de plein air, soutien à l'intégration aux personnes en situation de handicap physique. Puis on intervient principalement dans la grande région de Montréal.
D'accord. Et vous aviez une application qui s'appelle Charlie.
Mm-hmm. Oui, en fait, Charlie intervient donc dans la mise à jour de notre programme Trouve ton sport, dans la mise à jour de cette année 2021. Donc, Trouve ton sport, c'est une initiative qui a été lancée à l'automne 2019. Donc, c'est un projet qui est né suite à un travail de consultation effectué auprès des professionnels de la santé.
Mm-hmm.
On s'était aperçu qu'il y avait un gros manque d'informations et de connaissances et de ressources liées à la pratique sportive adaptée. Donc, on a initié cette plateforme collaborative qui regroupe différentes fédérations québécoises qui offrent des sports adaptés au Québec.
Mm-hmm.
Et chaque année, on réalise une mise à jour grâce aux informations qui nous sont communiquées par les fédérations. Et donc, cette année, on a lancé Trouve ton sport 2.0, qui regroupe trois principales nouveautés. Donc, une mise à jour des sports qui étaient déjà présents, dont notamment une actualisation des lieux où on peut pratiquer.
Oui.
L'ajout de quatre nouveaux sports accessibles au Québec. Donc, on a de la voile adaptée, la paranatation, le paratriathlon et le paratennis de table qui ont rejoint la liste des sports offerts. Et Charlie, l'assistant virtuel de Trouve ton sport, a fait sa grande entrée, qui est en fait un petit robot, un chatbot, comme on appelle, qui est disponible sur le Messenger de la page ou depuis notre site Internet.
D'accord. Alors, pour avoir l'application... Pour y arriver. Moi, j'ai été paresseux, j'étais sur votre site.
Ouais.
Je suis pas passé par Messenger, j'ai été sur votre site et j'ai coché, j'ai rempli le questionnaire pour savoir quel sport adapté me convenait. Je n'ai rien vu, il n'y avait rien qui posait de questions quant à mon résidu visuel, parce que moi, je suis handicapé visuel. Alors, est-ce que les personnes handicapées visuelles y trouvent leur compte ou pas encore?
Ce sera à venir. La déficience visuelle n'est pas encore intégrée à Trouve ton sport parce que c'est vrai que c'est un algorithme quand même assez particulier.
Mm-hmm.
Ça prend pas mal de temps pour intégrer différentes formes de handicap à la plateforme, mais c'est sûr que ce sera dans nos projets pour une mise à jour future.
Pour un Charlie 3.0.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Mais on va revenir à celui qui vient d'être lancé, 2.0. L'utilisation est destinée à des gens en situation de handicap qui sont curieux ou curieuses de savoir qu'est-ce qui existe pour eux ou pour elles. Est-ce que c'est en fait pour ces personnes-là que c'est créé ou aussi pour les intervenants qui peuvent être en contact avec les personnes handicapées?
Oui. Bien, à l'origine du projet Trouve ton sport, c'est vrai, était plutôt destiné aux professionnels de la santé.
Mm-hmm.
On voulait vraiment combler le besoin de ce côté-là. Mais l'objectif de Trouve ton sport est que chaque personne qui le souhaite puisse trouver un sport adapté à ses capacités motrices. Puis, on a pleinement conscience aujourd'hui que Trouve ton sport, en fait, l'outil sert aussi à des familles ou à des personnes, puisque le besoin, en fait, est présent globalement. Donc oui, c'est un outil qui est utilisable par tout le monde.
Et par exemple, si on identifie que parmi les sports que je pourrais essayer, qui pourraient me plaire, il y aurait par exemple le basket en fauteuil roulant, le basketball. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un lien vers l'association sportive ou les endroits où je pourrais pratiquer ce sport-là, qui pourront les structures d'accueil où je pourrais m'intégrer?
Oui, exactement. En fait, comment ça se passe, c'est que quand vous remplissez le formulaire, l'utilisateur se rend sur la plateforme, remplit le formulaire, donc on lui demande de rentrer ses informations quant à son niveau de mobilité, soit mobilité des membres supérieurs, inférieurs, mobilité du tronc. En fonction de ces informations, la plateforme génère un taux de compatibilité avec les différents sports qui sont répertoriés. Et puis, admettons, vous choisissez du basketball, vous allez avoir toute une fiche descriptive relativement aux capacités puis au mode de jeu. Et en bas, vous avez un onglet « Où pratiquer » qui répertorie la Fédération de basketball au Québec ainsi que les différents lieux où pratiquer du basketball en fauteuil roulant.
Parce que je peux croire que si je passe par le logiciel Charlie pour trouver mon sport, bien, je suis un néophyte, là. Je serai pas la première journée le meilleur joueur sur le court de basket, là. Je vais commencer à zéro. Alors, l'accueil va être fait en conséquence pour une personne qui débute dans le sport, qui est un tout nouveau, là.
Oui, complètement. En fait, l'objectif de l'ajout de Charlie, c'était vraiment de rendre l'information, on va dire, plus accessible et surtout de façon ludique. C'est un petit personnage, c'est une fonctionnalité qui éveille la curiosité. Puis, notamment, en fait, Charlie permet de trouver un sport, par exemple par remplacement ou en fonction des intérêts, mais il permet également de lire des témoignages d'athlètes, mm-hmm. De jouer à un jeu toujours en lien avec le sport adapté. C'est comme un outil complémentaire à la plateforme « Trouve ton sport ».
Parce que vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait 4 nouveaux sports qui s'étaient ajoutés à la plateforme, dont entre autres le triathlon, où là je suppose qu'il faille une forme physique minimale. Mm-hmm. Mais avec ces 4 nouveaux sports, au total, il y en a combien maintenant qui sont possiblement proposés?
On propose 16 nouveaux sports, mm-hmm. Au Québec.
D'accord. Et tous se pratiquent dans la région de Montréal?
Non. On est vraiment étendu. Okay. C'est vraiment au Québec à grande échelle.
D'accord. Le confinement, évidemment, vous avez mentionné que la première version suite à ce projet était à l'automne 2019. C'est sûr que par la suite, il y a eu une coupure dans le présentiel des sports en équipe, entre autres. Pendant un bon moment, ça devenait impossible. Maintenant que ça s'ouvre à nouveau, on peut croire qu'il y aura d'autres sports qui vont s'ajouter. Il n'y a pas de limitation à l'accessibilité des sports que vous proposez.
Non. En fait, comment ça se passe, c'est que c'est notre équipe au sport qui travaille quand même sur tout cet aspect collaboration. On entre en contact, ou les fédérations entrent en contact avec nous, puis elles manifestent en fait le besoin ou le souhait d'être répertorié sur Trouve ton sport, puis le travail se fait vraiment en collaboration, c'est-à-dire que on fait un travail de recherche des sports accessibles au Québec, donc on espère évidemment pouvoir élargir l'offre des sports sur la plateforme et également en fonction des types de déficiences dont on parlait tantôt. Mais c'est ça, c'est aussi les fédérations qui viennent vers nous pour nous proposer, puis pour nous signaler qu'eux offrent du sport adapté. Parce que c'est vraiment ce manque-là qu'on cherche à combler. Mmh. L'information, puis les ressources sont difficilement accessibles. Les gens ne savent pas vraiment vers qui se tourner et exact. Où aller pour trouver un sport adapté à eux. Puis on essaye vraiment de faire un travail de centralisation, mais on démarche, puis on vient aussi vers nous pour récolter l'information.
Ben, c'est formidable, parce que le sport est une excellente façon de briser les barrières autour de nous, de sociabiliser, de s'intégrer, de gagner de la confiance en soi, puis d'avoir le sourire aux lèvres. Merci beaucoup, Mme Froment.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Mme Froment. Vous êtes coordonnatrice des communications au Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Et on parlait du programme Trouve ton sport. Non, alors, on va trouver le nôtre juste après la pause avec les Paralympiques.
Vous écoutez la radio de Vue.
Il y a quelques semaines à peine, le rideau tombait sur les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi notre collègue, je dirais collègue parce qu'on fait du média, collègue et sportif averti, M. Kevin Breton. Bonjour Kevin, comment allez-vous?
Allô François, ça va très bien. Merci toi aussi.
Oui, ça va bien, je te remercie. Kevin, tu as eu l'honneur et le privilège, mais bien mérité, d'être à la fois à la description des Olympiques et des Paralympiques, de faire de couvrir les deux... les deux Jeux consécutivement, et de par là, ça donne une perspective assez unique sur le sport olympique et paralympique.
Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai pu, lors des Olympiques, je faisais la description des épreuves pelouses. Mm-hmm. C'est tout ce qui est lancer du poids, lancer du marteau et tous les autres. Et les sauts, donc les sauts en hauteur, soit en longueur, soit à la perche, triple saut. Puis, au Paralympique, je faisais pelouse et piste. Donc, je faisais, encore une fois, tous les sauts, les lancers. Et aussi les courses, soit les courses en fauteuil roulant ou bien les courses pour des athlètes avec une déficience visuelle, par exemple, qui couraient avec leur guide.
Mm-hmm. Et encore une fois, c'était une autre étape. La couverture médiatique des Paralympiques a monté une fois de plus d'une coche. La couverture cette année dans les médias était plus élargie, plus complète que ce n'était dans le passé. Alors, dans ce sens-là, il y a des progrès tout à fait notoires là, qu'il faut saluer.
Ben, je pense que oui, effectivement. En Radio-Canada, on avait plusieurs heures de couverture en direct sur le web. Puis il y avait également, en après-midi, des fêtes payantes qui étaient présentées avec Marie-Josée Turcotte, qui représentait quelques-uns des meilleurs moments en athlétisme et ailleurs. Puis plusieurs compétitions comme le goalball, l'athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, tout ça était présenté avec description et analyse sur le web.
Le Canada n'a pas très bien fait. Là, on va faire une petite parenthèse unifoliée. Là. Le Canada n'a pas eu sa meilleure performance.
Oui, effectivement. Le Canada passait bien proche de tomber en bas du top 20, terminé 19e au classement mondial. Ça aurait été la première fois depuis que le Canada participe aux Jeux paralympiques, depuis son inscription aux Jeux paralympiques, que le Canada termine en dessous ou en dehors du top 20. Fait qu'on remarque effectivement que depuis quelques années, il y a un glissement qui se fait. Il y a plusieurs raisons. Tu sais, oui, peut-être que en termes de recrutement et de rétention des athlètes, les différentes fédérations ont des croûtes à manger, peut-être, oui, en se comparant à d'autres. Mais aussi, il faut dire qu'il y a 10-15 ans, le Brésil, la Chine, les Pays-Bas, c'était pas les puissances.
N'avaient pas les mêmes structures en place.
Vraiment pas. Puis tu sais, ce qu'on remarque, par exemple, c'est que ben il y avait trois nations qui se distinguaient beaucoup. Il y avait les athlètes du COR, donc ceux qui représentaient la Russie, le Brésil et la Chine. La Chine là, qui dominait outrageusement avec 200 quelques médailles. Eh bien, ça, c'est trois pays, François, tu vas le constater, qui ont reçu les Jeux paralympiques récemment à court terme. Donc, Pyeongchang, c'était l'hiver, évidemment, mais à Rio, les Jeux paralympiques en 2016. Donc, ce qu'on pouvait émettre comme théorie, c'est que c'est un peu le fruit des dividendes que récoltent ces nations-là après avoir organisé des Jeux paralympiques. Ils ont mis en vitrine des athlètes handicapés. Et ça peut peut-être donner le goût à d'autres de s'intéresser.
Tout à fait.
Ça fait effet boule de neige.
Exact. Ici, on peut penser à Aurélie Rivard, par exemple, en natation, à Brent Latacoste en course. Mais il y a peut-être une émulation qui n'existe pas parce que certains pays semblent avoir bénéficié, je dirais, d'une vague. Est-ce que ça veut dire qu'il faille éventuellement avoir les Jeux paralympiques au Canada? Mais ça suppose qu'on a les Jeux olympiques aussi. Hein? L'un va avec l'autre.
Exactement. Puis en 1976, quand on avait eu les Jeux olympiques, c'était pas à Montréal, les Jeux paralympiques avaient été présentés à Toronto. Bon, on verra bien. Il y a quand même eu des Jeux à Vancouver il n'y a pas si longtemps.
Exact.
On entendait parler de Calgary, de Québec à un moment donné qui est dans le mix, mais je crois pas à ça à court terme, mais tu sais, effectivement, là, pour la pérennité du mouvement paralympique canadien, d'avoir des nouveaux visages, d'avoir une relève. Oui, Aurélie Rivard, elle est jeune, mais elle est quand même déjà une vétérane en natation. Brent Lakatos, 41 ans. Lui, il participe depuis 2004, 2008.
Exact. C'est plutôt la fin de sa carrière qui a été remarquable de par son âge. Là. Il nous faut d'autres Chantal Petitclerc et Benoît Huot, ainsi de suite, et qui vont donner le goût aux athlètes paralympiques ou de parasport là, de persévérer. Est-ce que, dans un autre registre, le public qui regarde les paralympiques, est-ce que ce sont des gens qui connaissent ou qui sont des athlètes ou qui sont du milieu ou est-ce qu'on peut rejoindre maintenant de plus en plus le public dans un sens large?
Ce serait le fun de faire un sondage en fait pour connaître les habitudes d'écoute des téléspectateurs qui sont au rendez-vous pendant les Paralympiques. Je ne sais pas honnêtement, mais de sondage maison, là, en parlant avec des gens qui sont intéressés, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ne sont pas nécessairement les plus grands sportifs de salon dans l'année en général, mais qui voient ça comme une célébration du handicap, les Jeux paralympiques, qui se disent, bon, ben enfin, une fois ou deux ans, à la télévision, on pète, le taux de représentation du handicap dans deux semaines, qu'est-ce qu'on va voir dans le reste de l'année. Fait qu'ils se disent, ben je vais être au rendez-vous, je vais être à l'écoute pour encourager ces gens-là, pour montrer que, oui, il y a un intérêt. Sinon, je pense qu'il y a quand même aussi des fervents amateurs de performance en tant que tels qui aiment ça voir Brent Lakatos courir des 100 mètres à pleine vitesse, voir des Priscilla gagner, faire du judo sans rien voir. Je pense que quand même des adeptes de performance qui sont au rendez-vous, sans être nécessairement des personnes handicapées.
Une remarque de mes amis qui ne vivent pas en situation de handicap me faisait au sujet des Paralympiques, c'était de s'y retrouver dans les classements ou les classes. Quand ils voyaient les résultats d'une nageuse ou d'un coureur, puis c'était marqué S10 ou ainsi de suite, les gens, peut-être le public en général, trouvent ça un peu compliqué de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie? Et peut-être une simplification ou une manière de rendre ça un petit peu plus... de vulgariser, parce que ça semble un petit peu mystérieux parfois, les classements.
Oui, je pense que ça passe par un travail d'éducation puis de vulgarisation, plus que par un travail de simplification, parce que tu sais, il y a autant de dossiers médicaux qu'il y a d'athlètes.
Exact.
4000 quelques là, en athlétisme, il y a autant de dossiers médicaux qu'il y a d'athlètes, donc c'est très difficile d'être capable de les regrouper dans une même catégorie.
Tout à fait, ça, on comprend fait, bien, oui.
Oui, et puis quand on le fait, des fois, on fait des compromis, puis là, on voit qu'il y a quand même un écart qui va se dessiner entre
Ça crée des injustices, évidemment, à ce moment-là, oui.
C'est ça, fait que ça serait difficile de faire des plus grandes catégories, j'ai l'impression, parce que on limiterait l'accès à beaucoup de personnes, à beaucoup d'athlètes avec un handicap, alors que ben la mission des Jeux paralympiques, c'est d'être inclusif et de donner la chance à plus de monde possible de se faire valoir. Donc, je pense que ça passe plus peut-être par de l'éducation pour bien faire comprendre quelles sont les différentes classifications et aussi peut-être par une incursion dans le monde des non-handicapés. Tu sais, moi, je pense que on pourrait très bien voir du goalball ou la course en fauteuil roulant. Tu sais, c'est très simple à comprendre quel est le handicap de ces personnes-là. À l'intérieur d'une scène olympique ou dans des Diamond League, dans des championnats du monde, déjà au Commonwealth, on les intègre. Fait plus qu'on va les voir, plus qu'ils vont y avoir de la visibilité, plus qu'on va être capable d'assimiler, je pense, ces différentes classifications.
Parce que c'est vrai qu'une quinzaine de sports à la télé, de sports paralympiques, mais ça survient, si on prend les sports d'hiver, les sports d'été, ça vient à peu près à tous les 24 mois. Hein, on a comme là, il va y avoir des décalages à cause du retard COVID, mais quoi qu'il en soit, donc on a une quinzaine à tous les 24 mois. Et ce qui manque peut-être, c'est le pont entre ces deux événements-là, où là, tout d'un coup, le parasport disparaît un peu.
Oui, je pense que oui, mais tu sais, le sport amateur en général...
disparaît, aussi, oui, aussi.
On en entend pas mal moins parler. Mm-hmm. Il y a beaucoup de questions de visibilité. Tu sais, il y a des gens qui demandaient si on devrait pas mettre les Jeux paralympiques avant les Jeux olympiques plutôt pour que ça serve un peu de première partie de mise en bouche. J'avais entendu Benoît Huot commenter ça. J'ai pas d'opinion très tranchée là-dessus. À savoir, je pense pas qu'il y a une solution parfaite. Je pense qu'on doit apprécier les Jeux paralympiques pour ce qu'ils sont en ce moment, plus qu'essayer de les déplacer.
Oui, ou de savoir est-ce qu'ils devaient avoir lieu indépendamment dans une autre ville, sans que ce soit lié au mouvement olympique proprement dit, que ce soit simplement d'autres Jeux, comme les Jeux d'hiver ont fait leur apparition à la fin des années 20. De la même façon, les Jeux paralympiques pourraient devenir une institution en elle-même, tout simplement, là, un peu comme d'autres types de compétitions sportives, que ce soit le Commonwealth ou les Jeux Panam. Parce que ce qu'il nous faut, c'est qu'à la longue, ça ne devienne pas nécessairement juste les gens du milieu qui regardent les gens du milieu, mais que ça s'élargisse au reste de la population. Parce que les médias font des efforts louables là, d'ouvrir les portes puis d'attirer des gens.
Tout à fait. Je pense que oui, pour vrai. Là, je pense qu'il y a vraiment une volonté forte. Puis je pense qu'il y a des commanditaires aussi qui en parlent de plus en plus dans la partie. Là, ça passe aussi évidemment beaucoup par là, parce qu'il faut quand même payer ces heures de diffusion-là. Je pense que plus qu'il va y avoir de commanditaires qui vont saisir l'opportunité, plus que ça va entraîner, que la roue va se mettre à avancer avec plus de visibilité. Puis moi, j'ai bien confiance là, pour les prochains Jeux. Depuis Londres, en 2012, il y a vraiment une augmentation d'année de cycle olympique en cycle olympique pour le mouvement paralympique, j'ai l'impression.
C'est très juste. Et là, il y a des Jeux d'hiver qui tout de suite sont à notre porte. Hein? On va avoir les Jeux d'hiver en janvier-février.
Pékin, effectivement, les Jeux de Beijing en février, puis les Jeux paralympiques en mars qui vont suivre. Donc, vraiment, très peu de pauses pour nous entre à les deux. Canada.
Oui, oui. Ouais. Ben, on espère que tu y seras encore, Kevin, pour nous aider à suivre ça de la bonne manière. Ben, merci beaucoup, Kevin, et longue vie aux Jeux paralympiques.
Ça fait plaisir, François. Bye-bye.
Merci.
Plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, me tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, me tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai.
Si vous avez ressenti un frisson, ce n'est pas la température ambiante. Là où vous êtes en ce moment, c'est parce que c'est Ginette Renaud. Puis Ginette Renaud, elle nous fait toujours frissonner quand elle chante. Voilà, maintenant de retour partout dans le monde avec Christiane Campagnard. Comment ça va?
Ça va très bien, François, et toi?
Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui?
Bien, tout d'abord, Facebook... C'est un sujet qui revient souvent parce que c'est omniprésent, n'est-ce pas?
Oui.
Et depuis plusieurs années, Facebook essaie de bloquer le chemin aux bloqueurs de publicité, qu'on appelle les adblockers
anglais. Oui, d'accord.
Qui sont des petites applications, une extension qu'on met sur son navigateur.
Oui. Ces bloqueurs-là nous apparaissent tout le temps. Ils sont même. Les publicités des bloqueurs de publicité sont un peu achalantes.
En fait, c'est que la plupart des sites maintenant les détectent. uh-huh. et nous bloque l'accès parfois à, okay. à certains articles. On finit par les désactiver sur une majorité de sites. On pourrait dire qu'en échange, ce serait bien, par contre, qu'on nous mette des publicités qui ne soient pas trop lourdes. Mm-hmm. Parce que parfois, ce qui motive les gens à les utiliser, c'est si on n'a pas absolument un ordinateur dernier cri, c'est le chargement de la page en général qui est retardé par certaines publicités trop lourdes. Mais Facebook essaie aussi de bloquer le chemin aux chercheurs. Oh. Qui essaie d'étudier le comportement des gens qui utilisent cette plateforme,
mm-hmm.
De voir comment ils réagissent au contenu sponsorisé notamment. Et dernièrement, Facebook a joué dans son code pour essayer de leur nuire. Je tiens ça du site de Gizmodo qui citait lui-même un média qui s'appelle The Markup, mm-hmm. qui a révélé que la dernière mise à jour de Facebook ajoute une multitude de... On appelle ça... c'est traduit de l'anglais, là, mais des petits déchets, mm-hmm.
Des patchs ou des...
En fait, on ajoute des choses dans le code, mm-hmm. un petit charabia, si on veut, supplémentaire, qui aide à déjouer les bloqueurs de publicité, mm-hmm. en plus de bloquer aussi parfois la technologie utilisée par les chercheurs
D'accord.
pour voir, qui veulent par exemple analyser la façon dont les publicités influencent le comportement des gens mm-hmm. Sur la plateforme de Mark Zuckerberg. Mais il semble que la façon dont les bloqueurs de publicité et les chercheurs procèdent, ça a aussi des points communs avec les logiciels de lecture d'écran. Ce qui fait qu'en ajoutant ces codes-là...
C'est là que le bas blesse.
Voilà, le code... les lecteurs d'écran utilisent ce même genre de code pour aider la personne à distinguer mm-hmm. si elle a affaire à une publication d'un de ses amis ou d'une page qu'elle suit ou à du contenu publicitaire. Mm-hmm. Alors, en bloquant ça, on bloque cette distinction-là pour les utilisateurs qui ont un handicap visuel.
Alors, le charabia passe du code au lecteur.
En fait, non, c'est que ça empêche le lecteur de distinguer mm-hmm. le contenu de vos amis du contenu publicitaire.
OK.
Donc, vous êtes plus à la merci. Normalement, sur Facebook, c'est bien identifié si on a accès à du contenu qui est commandité qui est de manière organique dans mm-hmm. notre fil d'actualité. Et c'est ça qui serait un problème. Gizmodo a contacté Facebook au sujet des changements. Un porte-parole de l'entreprise a noté qu'ils apportent constamment des modifications à leur code, que... leur fonctionnalité d'accessibilité semble en grande partie fonctionner normalement, mais qu'ils vont enquêter sur les
peut-être
perturbations
sur la prochaine version.
Alléguées. Ouais. Voilà.
Alors, prochaine version, il y aura peut-être quelque chose qui va faire le tour de ça. Donc, un détour qui va faire le tour d'un autre détour. Voilà.
Absolument.
Ouf. Ça fait penser à la navigation dans les rues, parfois. Oui.
Oui. On s'en va maintenant en Afrique du Sud, où mm-hmm. il y a une victoire après 11 ans de démarches judiciaires pour que les lecteurs qui ont un handicap visuel aient enfin accès à des formats adaptés. On appelait ça, encore une fois, traduction libre, la famine des livres pour les personnes aveugles et malvoyantes en Afrique du Sud, parce que la loi sur le droit d'auteur interdisait la conversion de documents écrits en braille et dans d'autres formats sans l'autorisation des auteurs. C'est qu'on avait omis ce qu'on fait dans beaucoup d'autres pays. Mm-hmm. C'est le cas aussi. Je pense même que je peux vous nommer l'article. C'est l'article 32 de la loi sur le droit d'auteur qui permet au Québec de faire ces versions-là. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez au Service québécois du livre adapté, mm-hmm. vous avez besoin d'un diagnostic parce que comme les livres... adaptés, enregistrés notamment par Vues et Voix.
Exact.
Notre volet adapté, on le fait sans demander des permissions parce qu'il y a une exception dans la loi mm-hmm. pour que tout le monde ait accès aux œuvres. Je me suis souvent retrouvée à devoir l'expliquer à des éditeurs et
Je peux comprendre, oui, parce qu'ils craignent qu'à ce moment-là, la nouvelle version soit largement diffusée. Mais pour ce qui est du braille, franchement, pour que ça coule dans le grand public et que ça crée une perte de droit, ça, je pense pas que ça va arriver.
Oui, surtout que c'est volumineux aussi, les
braille. En plus, oui.
Voilà, donc les associations représentant les personnes ayant des handicaps visuels ont fait des démarches pendant très longtemps et finalement, une mm-hmm. juge a dit que c'est inconstitutionnel de ne pas avoir cette exception. Alors, c'est avec effet immédiat. Bon, du côté du ministère qui gérait ça, on disait qu'on s'en allait par là de toute façon, mais que ça a accéléré le processus, au fond, ce jugement-là, auquel on ne va pas s'opposer. Alors voilà, mais c'est une bonne nouvelle pour...
Une avancée, ça fait... C'est sûr que c'est toujours un peu surprenant de voir le mot inconstitutionnel, là, mais enfin, on comprend le contexte.
Oui, ben, voilà, ça va peut-être permettre aussi à l'Afrique du Sud à se joindre à des consortiums internationaux comme le protocole de Marrakech,
oui,
qui permet d'échanger des œuvres à travers le monde.
Tout à fait. Bon, mais tant mieux.
Maintenant, après l'accès à la lecture, l'accès au fast-food.
Ah oui, ben là, il faut faire attention, il ne faut pas y passer sa vie,
mais
une fois de temps en temps.
Ben là, c'est un endroit où aussi la technologie prend de plus en plus de place. Si vous entrez chez McDo aujourd'hui, il y a des bornes sur lesquelles vous pouvez commander, plutôt que faire la file pour commander, et quand votre commande soit prête,
c'est comme le service à l'auto, mais à pied.
Mais à l'intérieur, voilà.
OK.
Et, bon là, la nouvelle que je vous annonce, c'est pour les États-Unis, mais il y avait... encore des problèmes d'accessibilité avec ces bornes-là. Et il y a de nouvelles mises à niveau qui vont être faites, qui se sont faites en collaboration avec la Fédération nationale des aveugles aux États-Unis, okay, qui vont notamment permettre d'avoir un logiciel de lecture d'écran, des claviers tactiles et la possibilité pour les clients de connecter des écouteurs, comme on peut le faire, par exemple, sur les guichets automatiques.
C'est ça, j'allais dire, parce qu'au début, les premiers guichets automatiques, il y a de ça assez longtemps, étaient, je dirais... hors jeu, là, pour les personnes handicapées visuelles. Finalement, les institutions financières se sont adaptées en assez bonne partie. Et donc, pour McDo, c'est pareil, là.
Oui, mais ça vient par étapes. Donc, au départ, c'est aux États-Unis, dans les restaurants détenus par la compagnie. Oh. Et plus tard, ça ira aussi aux machines vendues aux franchisés, parce qu'il y a deux sortes de restaurants McDo. Il y a ceux qui appartiennent directement à la compagnie,
exact,
et ceux qui appartiennent à des particuliers. Et on pense que toutes les nouvelles bornes installées aux États-Unis après le 1er juillet 2021, donc
on y est presque. Mais ça y est. Et au Canada, on n'y est pas encore? Ou?
Ben, j'ai pris ça dans un média américain. Mm-hmm. Alors évidemment, on ne se souciait pas de nous expliquer ce qui arrive avec le Canada.
D'accord. Peut-être là encore une fois, ce sera le côté corporatif avant que ce soit le côté franchisé.
Hein, c'est fort possible.
Exact.
Eh bien, on revient chez nous, puis on revient au sport.
Mm-hmm. Ah, bravo!
C'est directement en lien avec la conversation que vous avez eue avec Kevin.
Oui.
Puisque le Journal de Montréal, le Journal de Québec plutôt, on va voir pourquoi, nous racontait récemment comment les volleyeurs du Rouge et Or se sont prêtés à l'expérience du volleyball assis.
Le Rouge et Or, ça, c'est l'équipe universitaire de l'Université Laval.
Voilà, exactement. Exact. Quand on pense toujours au football, mais c'est le nom de toutes les équipes.
Oui, oui, ils sont là. Leur programme de football est assez remarquable, là. Mais ils font d'autres choses aussi.
Voilà. Et c'est l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées qui avait besoin d'un groupe cible pour tester des nouvelles fiches de sport adaptées.
Mm-hmm.
Et puis aussi de faire la promotion du volleyball assis. Alors, ils ont fait appel au Rouge et Or, qui ont été très réceptifs. Qui ont essayé. Donc, le projet consistait à faire une nouvelle sorte d'introduction. Ce qu'ils veulent, c'est faire un programme dans les écoles d'inclusion inversée,
oui,
dans les sports adaptés.
Oui, Kevin en a parlé un petit peu tout à l'heure.
Oui, exact. C'est ça. C'est donc, il s'agit que les personnes qui n'ont pas de handicap essaient.
Mm-hmm.
Au lieu que ce soit toujours, on trouve une adaptation pour que l'enfant qui a un handicap puisse participer au sport avec les autres, ce qui est très bien, mais c'est aussi favoriser l'ouverture que les enfants essaient aussi les sports adaptés.
Le goalball, entre autres, où tout le monde porte un bandeau pour qu'on ait une cécité complète, ça se prête très bien à ça. Ça prend juste un gymnase, ça prend juste 6 personnes à la fois. C'est assez challengeant quand on n'a jamais essayé du goalball, de l'essayer pour la première fois, là. C'est pas si simple, non?
Non, non, on pouvait le voir. J'ai regardé quelques compétitions pendant les Jeux paralympiques et c'est vraiment un sport difficile.
Oui, tout à fait. C'est pas... il est simple à comprendre, mais il n'est pas facile à pratiquer. Mais c'est ça, donc, l'inclusion inverse, ce serait d'amener des gens qui sont qui n'ont pas nécessairement un handicap visuel à jouer au goalball,
voilà,
ou qui ne sont pas nécessairement en fauteuil roulant. Qui commencera à faire du volley ou du basket.
Mais voilà,
du rugby.
C'est ce qu'ont fait les joueurs du Rouge et Or. Le vétéran Rémi Cadoret a dit « C'est vraiment plaisant à essayer et tu dépenses plus d'énergie que ce qu'on peut penser initialement. Je vous confirme que j'ai eu chaud. C'est étrange parce que ça ressemble au volleyball, mais le fait de se déplacer assis en fait un sport complètement différent. »
Exact. Ah, puis il a été surpris de voir qu'il y a eu chaud. Ça aussi,
oui,
c'est une barrière qui tombe, là, parce que comme quoi, les Paralympiques, c'est pas fatigant parce qu'on... on fait pas la même chose ou, entre guillemets, on est assis, là.
Oui, oui.
Ouais, mais ça, c'est vraiment... rien connaître, mais enfin, parce c'est pas grave, ça vient des gens qui sont de bon cœur.
C'est pas simple. Il faut toujours, on est assis par terre, on peut se déplacer, mais il faut toujours qu'une partie du corps touche le sol. Mm-hmm. Un autre joueur disait, il faut que tu trouves ta stabilité. Au volleyball normal, ça provient des jambes. Dans ce sport, c'est beaucoup plus ta ceinture abdominale qui procure cette stabilité pour faire des coups avec précision. Mm-hmm. Alors, il a dit qu'il avait déjà un grand respect pour les athlètes paralympiques, mais que c'est encore plus vrai maintenant, après avoir essayé le volleyball assis.
Oui, tout à fait, parce que je peux comprendre qu'il faille se tenir droit, puis ça demande un effort, là. Il faut, les instructeurs disent avoir un corset, là. Il faut tenir ses abdominaux puis ses dorsaux bien solidement là, pour être droit et regarder la cible, ainsi de suite. Ah, même.
Mais d'ailleurs,
bravo, le Rouge et Or, j'espère qu'ils vont faire
répéter
l'expérience
sports.
Avec d'autres sports.
Oui,
peut-être,
c'est fort intéressant. Je dirais aux gens, en tout cas aux gens de Montréal qui veulent voir des sports adaptés pour la première fois aussi, d'aller faire un tour au défi sportif au printemps, bon, s'il redevient le plus normal possible.
Exact.
L'entrée est gratuite. Et il y a de la place en masse dans les gradins.
Oui, tout à fait. Puis il y a toutes sortes de compétitions, de toutes sortes d'âges aussi, de compétiteurs.
Et aller tôt le matin voir les jeunes athlètes des écoles faire leur entrée triomphale par délégation, c'est un moment à vivre.
Ouais, ça fait chaud au cœur. Ben, merci beaucoup, Christiane, notre recherchiste qui sait tout et qui n'en dira pas moins. Hein? Voilà. Merci également à M. Maurice Bolduc, musicologue et maître de la console. François Beauregard qui vous dit bonjour, bon après-midi et on se reparle lundi prochain, midi à Sans Détour.